Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Bonjour à tous, Boudjé Madaman et Claude Cyril pour cette nouvelle émission de Fréquence Droit, une émission consacrée au droit pénal international, au droit international humanitaire, des notions appliquées aux conflits qui ensanglantent depuis des décennies et particulièrement depuis le 7 octobre la région Israël-Palestine. Après 15 mois de bombardements incessants, l'accord de cessez-le-feu entré en vigueur en janvier dernier, constitue une lueur de soulagement pour les familles des otages israéliens et pour la population palestinienne victime de 15 mois de bombardements à Gaza. Le paysage qui se dessine est celui d'un champ de ruines. Depuis ce funeste et tragique 7 octobre qui a vu la mort dans des conditions barbares de quelques 1200 personnes assassinées par le Hamas, organisation qualifiée par plusieurs gouvernements de terroristes, et parmi ces personnes assassinées, 815 civils. À ce bilan, il faut ajouter la prise de plus de 250 otages, une opération suivie par plus de 15 mois de bombardement de la ville de Gaza par l'armée israélienne. Bilan, plus de 45 000 morts. Ce conflit, en tout cas, aura peut-être permis de tester la solidité des institutions internationales chargées de faire respecter justement le droit international. Le droit international peut-il effectivement constituer une boussole morale et sémantique pour des sociétés désemparées par l'ivresse de violence qui frappe Palestiniens et Israéliens? C'est la question que posait le chercheur Johan Soufi. Et c'est ce que nous allons voir avec nos deux invités. Fréquence Droit, en effet, a le plaisir de recevoir deux juristes éminents et hommes de dossier et de terrain. Patrick Baudouin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocat à la Cour d'appel de Paris et président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme. Emmanuel Daoud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocat spécialiste en droit pénal international, inscrit au barreau de Paris depuis 1988. Vous êtes aussi inscrit auprès de la Cour pénale internationale. Merci d'avoir accepté l'invitation de Fréquence Droit. Je suis avec Boudjema Daman. Cette émission est enregistrée le 4 février 2025. Dans les studios de la Ligue de l'enseignement, que nous remercions.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Gaza, on ne peut évidemment manquer d'aborder l'aspect judiciaire et pénal de ce qui s'est passé le 7 octobre, attaque du territoire israélien par le Hamas. Ces faits, c'est la question que je pose à mes deux interlocuteurs, constituent-ils des crimes de guerre en raison de leur caractère indiscriminé, tant lors de l'attaque terrestre que durant la pluie de roquettes qui l'a précédée? Patrick Baudouin.
Je crois qu'au minimum, on peut parler de crimes de guerre. Malgré toute la discussion que nous connaissons sur ce qu'est le Hamas, puisque vous savez que certaines raisonnent uniquement par rapport à la notion de terrorisme, en disant c'est une organisation terroriste, c'est du terrorisme. Pour nous, ce n'est pas l'analyse que nous en avons faite. Nous considérons que le Hamas, quoi qu'on en pense, est une organisation de milices armées, dont on peut évidemment dénoncer les méthodes, et c'est le cas pour ce qui s'est passé le 7 octobre, événement d'une barbarie inouïe et d'une barbarie qu'il faut sans cesse condamner. Là-dessus, il n'y a pas à barguigner, il n'y a pas à discuter. Ce qui s'est passé est abominable. Alors, crime de guerre ou crime contre l'humanité? Crime de guerre, certainement. Moi, je serais tenté de penser qu'effectivement, c'est un crime contre l'humanité. Pourquoi? Parce que manifestement, c'est une opération qui a été savamment préparée. Ça ne s'est pas décidé du jour au lendemain, avec la volonté d'une attaque systématique, délibérée, en toute connaissance de cause, contre une population civile. Vous rappeliez tout à l'heure, à juste titre, que parmi les 1200 victimes, peut-être davantage d'ailleurs, il y a une majorité de civils. Donc je pense que sur le plan de la qualification juridique, on peut même retenir la notion de crime contre l'humanité. Je ne sais pas ce qu'en pense Emmanuel Daoud.
Bougez, madame Anne.
Je m'adresse à Emmanuel Daoud également, comme ça il répondra aux deux, mais ça s'adresse également à vous, Patrick Baudouin. Comment qualifier les 15 mois de bombardement sur la bande de Gaza? par l'armée israélienne. Légitime défense, comme le revendique le gouvernement israélien, crime de guerre, crime contre l'humanité ou génocide.
Alors je vais d'abord répondre, merci pour l'invitation, je vais d'abord répondre à la première question posée. Pour moi, il ne fait aucun doute que les faits commis, les crimes commis par le Hamas le 7 octobre doivent être qualifiés de crimes contre l'humanité. Ça a été organisé, préparé avec minutie, et l'on a ciblé de façon délibérée des civils, et des civils qui comprenaient des femmes et aussi des enfants. Et les populations qui ont été ciblées étaient pour leur très grande majorité ou quasi-unanimité des personnes qui étaient de confession juive. Les éléments sont rassemblés pour considérer que cette attaque généralisée, systématique, visant une population ciblée, est un crime contre l'humanité et on ne peut pas entendre les « oui mais » que l'on a entendus au moment où il s'est agi de qualifier pour la première fois dans les premiers jours qui ont suivi le 7 octobre. Donc oui, c'est un crime contre l'humanité, en tout cas pour ce qui me concerne, j'en ai la conviction.
Emmanuel Daoud, Patrick Baudouin, crime de guerre, crime contre l'humanité, quelle est la différence ? Patrick Baudouin.
La différence, c'est crime de guerre, si vous voulez, c'est une série de crimes, assez nombreux d'ailleurs, qui se trouvent définis notamment dans les conventions de Genève sur le droit de la guerre, si l'on peut dire. C'est toujours une expression qui me choque beaucoup, mais elle existe. C'est-à-dire les actes qui ne doivent pas être accomplis en cas de guerre. Alors ces actes vont justement des meurtres à l'encontre de populations civiles, des bombardements indiscriminés contre des bâtiments civils, des hôpitaux, des écoles, un mauvais traitement des prisonniers. Donc une multiplicité d'actes, mais qui constituent plutôt, si l'on peut dire, des infractions à titre un peu individuel. Ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des officiers supérieurs qui, par absence de contrôle de leurs troupes ou même volonté de ne pas les contrôler, les laissent faire des actes de cette nature. Mais il y a une nette différence de degré avec le crime contre l'humanité, puisque, comme ça vient d'être dit et par Emmanuel et par moi dans le propos précédent, le crime contre l'humanité, c'est vraiment, comment dire, c'est beaucoup plus politique, si l'on peut dire. C'est-à-dire, c'est une décision qui va être prise d'une attaque systématique, massive, disproportionnée, en toute connaissance de cause de ce qui va se passer, généralisée, et qui va multiplier tous les actes que l'on peut trouver relevant des crimes de guerre. Donc, on est sur quelque chose, on va le dire, parce que c'est vrai que c'est toujours un peu difficile à comprendre pour les opinions publiques, nous le savons avec la difficulté d'expliquer parfois, on va dire pour simplifier que c'est beaucoup plus massif que le crime de guerre et on atteint donc un degré très très nettement supérieur dans la barbarie et la violation du droit international et même du droit de la guerre.
Emmanuel Daoud, je reviens vers vous avec la question qu'on évoquait à l'instant, celle de la qualification de ce qui s'est passé après le 7 octobre, pendant 15 mois, à Gaza.
Alors j'ai saisi, au nom de trois ONG palestiniennes de droits humains, la Cour pénale internationale d'une communication, c'est le terme technique, où nous visions les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, et ce y compris le crime de génocide, contre un certain nombre de responsables israéliens, à commencer par le premier d'entre eux, M. Benjamin Netanyahou, M. Yoav Gallant et d'autres membres du cabinet de guerre. Et à l'époque où nous avions saisi la Cour pénale internationale, nous considérions d'ores et déjà qu'il y avait suffisamment d'éléments pour caractériser à la fois les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le crime de génocide. Nous considérions, et malheureusement, je dis bien malheureusement, la suite nous a donné raison d'une certaine façon, on verra bien ce que dira la Cour pénale internationale le moment venu, que le fait de bombarder de façon systématique tout le territoire gazaoui, de rendre la vie impossible sur cette bande de terre, le fait d'interdire l'arrivée de l'aide humanitaire, le fait d'affamer de façon délibérée la population gazaoui, le fait d'essentialiser l'autre et de le ramener à la condition animale, puisqu'il y a eu des déclarations en ce sens de ministres israéliens. Et je rappelle, j'ouvre une parenthèse pour vos auditrices et vos auditeurs, que le vocabulaire qui avait été employé à l'époque était un vocabulaire qu'on avait déjà retrouvé dans la bouche des ministres extrémistes hutus pour justifier...
Au Rwanda,
pour justifier l'exécution et l'extermination des Tutsis. On a retrouvé des phrases qui étaient identiques.
Animaux humains...
Bref, tout cela nous laissait à penser, malheureusement, et même si c'est vrai qu'Israël a une, si j'ose dire, une histoire, une symbolique particulière avec le crime de génocide et victimes de la Shoah pour les Juifs, tout cela nous laissait penser, malheureusement, qu'un crime de génocide était en train également de se commettre. Donc c'est peut-être heurtant, choquant d'entendre cela, mais je le dis de façon dépassionnée, comme juriste, on verra bien ce que diront les juridictions internationales, étant précisé que la Cour internationale de justice, qui n'est pas une cour pénale, a à deux reprises saisi à l'initiative de l'Afrique du Sud, mais il y a eu 7 ou 8 États qui se sont joints à l'action, dit à deux reprises qu'il y avait une présomption de commission à ce moment-là du crime de génocide et que la Convention de Genève faisait l'obligation aux États de tout faire pour interdire que cela se poursuive, et à commencer évidemment par l'État d'Israël. Et enfin, et j'en ai terminé, le rapport d'Amnesty International qui a été publié il y a 2 mois, je crois, et qui documente de façon très précise, rigoureuse, factuelle, technique, c'est l'ensemble de ces faits et qui aboutit à la conclusion que le fait de déporter une partie de la population, le fait de l'affamer, le fait de lui rendre la vie impossible, et en visant directement l'ensemble de la population gazaoui, faisait qu'on pouvait penser que le crime de génocide avait été commis pendant ces 15 mois.
Boudjé Madaman.
C'est pourquoi l'accord de cessez-le-feu intervenu récemment a été un immense soulagement, mais il soulève également beaucoup d'inquiétudes. Pourriez-vous, alors je m'adresse d'abord à Patrick Baudouin, expliciter exactement ces 3 phases que comprend ce cessez-le-feu pour arriver à un cessez-le-feu permanent? Quels sont les risques qui peuvent intervenir de rupture de cessez-le-feu ou d'interruption entre les phases 1, 2 ou 3? Et enfin, est-ce que ce cessez-le-feu représente des garanties que l'on pourrait qualifier des garanties de droit, ou est-ce encore une question de rapport de force ?
Patrick Baudouin.
Je vais répondre à votre question. Je voudrais juste un instant revenir sur la question du génocide, qui me paraît extrêmement importante. Dans les 3 catégories de crimes que nous évoquons, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide, sont des attaques contre des populations civiles. C'est ce qu'il faut bien comprendre, ce sont des civils. Ce qui s'est passé depuis le 15 octobre, je ne vais pas être long, je veux juste dire, évidemment, c'est au minimum un crime contre l'humanité, évidemment, avec ce côté systématique de bombardement de toutes les infrastructures, d'attaques contre les populations civiles, de milliers, dizaines de milliers de morts, femmes, enfants, vieillards, et pas seulement, bien sûr, des combattants, c'était totalement indiscriminé. Est-ce que c'est un génocide ? Je serais porté, j'ai beaucoup hésité à accepter cette idée, et pour les raisons qu'évoquait tout à l'heure Emmanuel. Ça dépasse un peu l'imagination de penser que ce peuple qui a subi ce qu'il a subi, le crime des crimes, le crime de génocide absolu et tellement monstrueux qu'était la Shoah, puisse être quelque part, tout au moins à travers ses dirigeants, hein, car il ne s'agit pas de dire que c'est le peuple, mais ses dirigeants puissent être accusés de génocide. Néanmoins, je pense que tel est le cas, parce que le génocide, c'est la volonté de détruire en tout ou en partie un peuple, une population, en raison de sa race, de sa religion. Et on est quand même, j'y reviens pas, Emmanuel a bien défini les éléments qui tendent à penser que, effectivement, on veut détruire en tout ou en partie ce peuple palestinien qui est à Gaza. Et les dernières déclarations qui ont été faites, j'entends qu'elles émanent principalement de M. Trump, ce qui ne surprendra personne, mais bien sûr reprises, avec enthousiasme par Netanyahou et son gouvernement et ses ministres d'extrême droite, vont dans ce sens. Quand on dit qu'on doit les chasser de Gaza, qu'on doit faire table rase, Et je crois que c'est quand même là quelque chose qui doit être mis principalement en exergue. Alors je réponds maintenant à la question que vous soulevez, qui est quand même l'espoir, il faut le dire, et dans ce monde tellement sombre et surtout sur ce conflit, essayons de trouver une source d'optimisme. Alors c'est vrai qu'il y a eu cet accord avec les trois phases qui sont prévues. L'une, la première, est actuellement en cours. On en voit les difficultés, mais enfin qu'un cas, elle avance. La deuxième reste encore incertaine, c'est-à-dire d'aller vers la libération de beaucoup plus d'otages et aussi la libération de milliers ou de centaines de prisonniers palestiniens supplémentaires. Et on voit toutes les réticences, tous les blocages qu'il y a et toutes les dissensions au sein du gouvernement israélien. Et je pense qu'on peut avoir beaucoup d'appréhension. L'optimisme, c'est que Trump, qui veut faire la loi partout et qui malheureusement, pour l'instant, en a quelques moyens, pousse à ce qu'on aille jusqu'au bout du processus parce qu'il a d'autres visées. D'abord, le souci de protéger le peuple israélien, certainement, et aucune préoccupation humanitaire vis-à-vis des Palestiniens. Mais au-delà, on sait qu'il veut le rapprochement avec l'Arabie saoudite, qu'il a certaines visées de rapprochement également, ce qui est assez mal vu par Netanyahou avec l'Iran. Bon, c'est tout un jeu stratégique qui fait que peut-être on peut avancer sur la deuxième phase. La troisième, je reste beaucoup plus circonspect. Je crois qu'il y a en Israël, malheureusement, une telle manipulation de l'opinion publique, un tel contexte qu'il faut à la fois, comprendre et contester. Comprendre et contester. C'est vrai que pour les Israéliens qui vivent en Israël, le 7 octobre est un choc et un traumatisme inimaginable. Et ça, il faut le prendre en compte, je pense. Mais le résultat en est que cette population tellement traumatisée, elle est facilement
manipulable.
Et donc, le gouvernement qui n'a aucune morale, qui est d'une immoralité absolue, utilise ce traumatisme pour essayer de dresser le peuple israélien dans une volonté guerrière, dans une volonté de revanche, dans un cycle de violence qui inévitablement sera nuisible pour les deux peuples, palestiniens et israéliens, car on est en train, malheureusement je le crains, de créer des générations de terroristes chez les jeunes palestiniens à travers ce qu'ils sont en train de vivre depuis 15 mois. Donc c'est en plus contre-productif. Vous savez que la revendication et de la Ligue des droits de l'homme que j'ai présidée et de la FIDH depuis très longtemps, c'est deux peuples, hein. Deux peuples, palestiniens, israéliens, avec pour chacun des deux le droit absolu et qui ne peut pas être dérogeable, qu'on ne peut pas remettre en question d'avoir un territoire sur lequel chacun des deux peuples peut vivre en paix, dans une paix juste, durable et éventuellement sous contrôle international dans une première étape. Mais c'est réalisable. Maintenant, c'est aujourd'hui... Ça paraît lointain et compliqué.
On va y revenir dans le courant de cette émission. Dans un instant, nous allons parler de la Cisjordanie.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Fréquence droit sur Aligre FM, numéro consacré donc au droit international et au conflit Israël-Palestine. Je rappelle que nos invités sont Patrick Baudouin, président honoraire de la Ligue des droits de l'homme, ancien président de la Ligue d'ailleurs, et puis l'avocat expert en droit international Emmanuel Daoud. Boudjé Madaman est avec moi dans ce studio. On a eu des spectacles de larmes et des scènes de liesse à Gaza, en Cisjordanie occupée, après la libération, il y a quelques jours, de prisonniers palestiniens, 183 prisonniers palestiniens qui ont été libérés des prisons israéliennes après que le Hamas a relâché trois otages israéliens dans le cadre d'un échange prévu par le cessez-le-feu à Gaza. Nous en parlions à l'instant. Et émotion côté israélien, émotion également côté palestinien. Mais rien ne change en Cisjordanie, puisque parallèlement, Israël a mené dimanche de vastes opérations militaires dans le nord de la Cisjordanie occupée. Et cela a été marqué par la destruction de nombreux bâtiments, selon l'armée. L'armée qui a affirmé avoir tué plus de 50 terroristes dans ce territoire depuis le 14 janvier. Alors, la Cisjordanie, c'est l'autre foyer incandescent du drame palestinien. Comment on en sort sur le plan juridique, Emmanuel Daoud ?
Il n'y a pas de réponse toute faite. Ce qui se passe en Cisjordanie est connu de tous et de toutes depuis des dizaines d'années. C'est un territoire occupé. C'est comme ça qu'il est défini par les Nations Unies. Il peut même y avoir des procédures de sanctions commerciales pour celles et ceux qui commercent avec des entreprises israéliennes sur ces territoires occupés. Et rien ne change. Et certains et certaines ont pu qualifier la politique menée par l'État d'Israël en Cisjordanie et à Jérusalem-Est de politique d'apartheid. C'est-à-dire que les citoyens palestiniens ne sont pas considérés comme des citoyens à part entière ayant les mêmes droits que les citoyens israéliens, sont exclus de fonctions publiques, ne peuvent pas circuler librement, n'ont pas accès à des comptes bancaires pour mouvementer leur vie économique, ne peuvent pas recevoir des aides, bref, font l'objet de contrôles systématiques, alors là, c'est le cas de le dire, au faciès. Donc la situation en Cisjordanie, elle ne s'améliore pas. Elle ne s'améliore d'autant moins que Gaza fait donc l'objet de ce cessez-le-feu et qu'en Cisjordanie, rien n'a été prévu. Donc c'est la porte ouverte à toutes les exactions possibles, peut-être même sans être complotiste ou paranoïaque, imaginer que l'on va créer un foyer de violence pour peut-être remettre en cause ce qui se passe à Gaza. Et un des signaux particulièrement négatifs qui ont été envoyés par la nouvelle administration américaine, c'est quand même d'avoir levé les sanctions qui pesaient sur des colons israéliens extrémistes qui avaient mené des actes de violence ou qui appelaient à mener des actes de violence physique contre les Palestiniens. Donc, ce qui se passe en Cisjordanie n'incite pas à l'optimisme.
Oui, ce sont des mesures qui avaient été prises par le président Biden et oui, qui ont été rapportées par le président Trump. Patrick Baudouin.
Non, je pense que sur la Cisjordanie, plusieurs choses peuvent être dites, bien entendu, et on va essayer d'aller vite là aussi ou de résumer plus exactement. Premièrement, ce sont, comme le rappelait Emmanuel Daoud, ce sont des territoires occupés et il y a toute une série de résolutions des Nations Unies qui ont demandé la cessation de cette occupation parfaitement illégale et donc le retrait des troupes israéliennes. La première résolution remontant à 1967,
après la guerre
des six jours, c'est la résolution 242. Il y en a eu beaucoup d'autres depuis lors, en 73, et puis l'une des plus récentes, qui, sauf erreur, date de 2016, qui est une résolution extrêmement explicite et qui adjure les Israéliens d'enfin respecter le droit international. Or, ils ont fait tout l'inverse. Et ils continuent d'accélérer le processus de colonisation en Cisjordanie, et surtout processus de ce qu'il faut appeler maintenant, là aussi j'aurais été hésitant pendant longtemps, mais un apartheid. Et apartheid surtout qui est facilité par une loi de juillet 2018, qui est la loi qui expressément dans le texte même de cette loi qui régit maintenant l'État d'Israël, il faut rappeler qu'à l'origine, en Israël, c'était l'égalité de tous qui prévalait quand l'État d'Israël a été créé, théoriquement. Là, au contraire, on affirme dans la loi, et la loi d'État de 2018, qu'il faut poursuivre la colonisation et que c'est un objectif à atteindre, la colonisation. C'est un objectif. Et cette loi comporte toute une série de discriminations qui sont en œuvre contre les Palestiniens. Et ce qu'on voit aujourd'hui, de manière accrue, parce que ce n'est pas du tout nouveau, ce sont des arrestations et des détentions arbitraires administratives de longue durée, des condamnations à des peines absolument excessives et aberrantes quand il y a un jugement qui est rendu, de la torture avérée, de la torture démontrée de la part des Israéliens, voire des exécutions sommaires quand les forces israéliennes interviennent. Et où je rejoins complètement là aussi ce qu'a dit Emmanuel Daoud, c'est que les regards du monde entier ayant été tournés principalement sur Gaza et à juste titre dans les mois écoulés, les Israéliens, entre guillemets, les gouvernements israéliens, les militaires israéliens en ont profité parce que c'était moins visible peut-être, accentuer le processus de répression et colonisation en Cisjordanie et essayer de broyer les Palestiniens, avec finalement un seul objectif pour ce gouvernement, je pense, même s'il est encore relativement inavoué, qui est de faire d'Israël un État peuplé uniquement du peuple juif et petit à petit d'obliger les Palestiniens à partir, ou en tout cas, pour ceux qui resteront, de les réduire à des citoyens totalement de seconde zone. Et ça rend évidemment très difficile les perspectives voulues par certains Israéliens, parce qu'il ne faut pas du tout... Ceux qui parlent le plus et le mieux des violations commises par les gouvernements israéliens successifs, ce sont des juifs israéliens eux-mêmes. Et il y en a quand même un pourcentage important, malheureusement minoritaire, mais ils le disent mieux que nous, et ils sont encore plus fondés que nous à le dire. En tout cas, on peut les croire et surtout les soutenir.
Emmanuel Daoud.
Le paradoxe de la situation est souvent lorsque l'on dénonce les faits commis en Cisjordanie ou ailleurs par les gouvernants israéliens et par l'armée, accompagnant et soutenant les colons les plus extrémistes, c'est qu'on nous renvoie l'image qui correspond à une réalité politique en disant « mais finalement, vous critiquez la seule démocratie dans ce coin du monde au Moyen-Orient. Laissez nos institutions judiciaires fonctionner. Nous savons faire, il y a des élections libres. » Et le paradoxe de la situation, c'est que M. Netanyahou, en ce moment, comparaît une fois par semaine devant une juridiction pénale pour répondre de faits de corruption. Donc, il est le chef de gouvernement, mais il doit se présenter devant ses juges, et on ne sait pas quelle décision sera rendue. Mais dès qu'il s'agit des Palestiniens, c'est comme si tous les outils démocratiques, l'institution judiciaire israélienne qui est très, très vivace, qui existe, étaient totalement anesthésiés ou désactivés. Et vraiment, pour le juriste et l'avocat que je suis, c'est un paradoxe énorme et qui se traduit dans les faits par cette politique d'apartheid et par cette répression, ces exécutions, des tortures pratiquées dans les prisons israéliennes, dans cette démocratie. C'est impensable. Et ça s'est passé sous les yeux de la communauté internationale, avec la Croix-Rouge qui n'a pas pu intervenir. Mais maintenant, les faits sont documentés. Et donc, il va bien falloir aussi que le gouvernement israélien en place réponde de ces exactions.
Boudjimanaman.
Je voudrais aborder, puisque nous parlons des institutions judiciaires, je voudrais aborder donc les institutions judiciaires internationales. La CPI est donc Cour pénale internationale et la CIG, Cour internationale de justice. Pour la CPI, et là je ne me trompe pas, elle est connue, la Cour pénale internationale, puisque notamment son procureur vient d'émettre un certain nombre de mandats d'arrêt internationaux, mais malheureusement, elle est menacée. Je dirais, au-delà de ceux qui exercent des fonctions donc, au sein de la CPI, tous ceux qui collaboreraient avec elle. Et en ce qui concerne la CIG, la Cour internationale de justice, elle, par contre, elle est méconnue et relativement ignorée. Donc, les questions qu'on se pose par rapport à ces organismes internationaux, c'est qu'en est-il des procédures engagées ? Vont-elles, dans ce contexte, se poursuivre ? Et aboutir surtout.
Emmanuel Daoud sur la CPI.
Alors la Cour pénale internationale, et Patrick Baudouin le sait bien, a été très critiquée pendant longtemps, au motif, pour faire simple, et j'espère pas de façon caricaturale, de s'occuper, entre guillemets, des petits dossiers, c'est-à-dire que c'est la seule juridiction pénale internationale qui peut poursuivre des chefs d'État en exercice. Et les décisions qui étaient rendues après de longues années d'instruction, d'enquête et de jugement concernaient plutôt des chefs de milice, par exemple en RDC, en République démocratique du Congo, ou en tout cas ne s'attaquaient jamais à des puissances occidentales ou à des puissances, par exemple, comme la Chine. Il y a eu un avant et un après la guerre la guerre d'agression menée par la Russie en Ukraine, puisque la Cour pénale internationale a délivré deux mandats d'arrêt, dont un concernait Vladimir Poutine, chef d'État en exercice, d'un pays en plus membre du Conseil de sécurité. Et là, on s'est dit, enfin, la Cour pénale internationale prend ses responsabilités, va de l'avant. Sauf qu'évidemment, toute la communauté internationale était d'accord. Et tout le monde applaudissait des deux mains. Et puisqu'il y avait un front uni ou quasi uni contre la politique menée par la Russie de Vladimir Poutine.
Ce qui n'est pas le cas concernant Israël.
Ce qui n'est pas le cas concernant Israël, puisque lorsque M. Karim Khan, le procureur auprès de la Cour pénale internationale, a annoncé qu'il requérait des mandats d'arrêt internationaux, d'une part contre les trois responsables du Hamas qui apparemment sont tous été tués par l'armée israélienne, d'une part, et d'autre part, M. Benjamin Netanyahou et M. Yoav Gallant, son ministre de la Défense de l'époque, ça a été un tollé pour dire que ce procureur était politique, d'ailleurs pour interroger ses origines ethniques. Enfin bref, ça a été des débordements qu'on avait déjà connus d'ailleurs, s'agissant de Mme Fatoumata Ben Saouda, qui était sa prédécesseuse, qui a fait l'objet de procédures de sanctions contre elle et certains membres de son équipe par l'administration Trump versus 1, au motif qu'elle avait lancé des enquêtes sur les crimes de guerre qui auraient pu être commis par l'armée américaine en Afghanistan, crimes de lèse-majesté s'agissant des Américains. Et donc, aujourd'hui, la situation est la suivante. La Chambre des représentants a voté une décision qui avait pour objet de lancer des poursuites de sanctions contre les magistrats de la Cour pénale internationale qui ont validé les mandats d'arrêt requis par M. Karim Khan, contre toutes les entreprises qui travailleraient avec la CPI, contre les cabinets d'avocats qui collaboreraient dans des procédures concernant des citoyens israéliens et américains. Et à notre grande surprise, pour la communauté des juristes, on pensait que ça allait être adopté la semaine dernière, et il y a eu un temps d'arrêt. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont rendus compte que des entreprises américaines travaillaient avec la Cour pénale internationale, à commencer par Microsoft. Donc je ne sais pas ce qui va ressortir de tout cela, mais évidemment c'est extraordinairement inquiétant et préoccupant. Et surtout, évidemment, c'est un calcul à courte vue. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas ces magistrats, ce ne sont pas ces avocats, ce ne sont pas ces fonctionnaires qui sont en cause. C'est toute la communauté internationale, c'est le devenir de la justice pénale internationale. C'est même l'adhésion et la politique volontariste de je ne sais combien d'États qui sont les États partis au statut de Rome qui fondent le fonctionnement de la Cour pénale internationale. Est-ce que l'on va pouvoir accepter que cela puisse se produire s'agissant de la Cour pénale internationale ? Il y a un article du statut de Rome qui prévoit expressément une peine d'emprisonnement allant jusqu'à 5 ans, plus une peine d'amende, pour toutes celles et ceux qui exerceraient des pressions, qui chercheraient à intimider les fonctionnaires de la CPI, les juges de la CPI, qui chercheraient à entraver le fonctionnement de la Cour pénale internationale. Est-ce que ça peut être véritablement dissuasif ? Je pense plutôt que c'est la communauté internationale qui doit réagir, et d'ailleurs, sauf erreur de ma part, les ambassadeurs des pays européens membres de la CPI aux États-Unis ont signé une déclaration commune pour dire que si cela devait arriver, il fallait que l'Union européenne n'hésite pas à opposer une loi de blocage pour s'opposer à ce type de sanctions.
Patrick Baudouin, les ambassadeurs européens ont réagi, mais l'Union européenne, dans son soutien à la CPI, me paraît un peu timide. Par exemple, sur l'éventuelle incarcération d'un Netanyahou qui viendrait en France, la diplomatie française n'a pas été très, très claire sur ce qu'elle ferait.
Très allante.
C'est le moins qu'on puisse dire. Le problème de la CPI, on le sait depuis le départ, c'est que, bien sûr, c'est une juridiction, donc on va dire c'est du droit, ce sont des magistrats, mais quelque part, la politique est omniprésente. Elle est omniprésente d'abord parce qu'il faut toujours le rappeler, bon nombre d'États, et principalement ceux dont les dirigeants pourraient faire l'objet de poursuites, n'ont pas ratifié le statut de la Cour. C'est le cas des États-Unis, c'est le cas de la Russie, c'est le cas de la Chine, c'est le cas des pays du monde arabe pour la plupart d'entre eux, etc., etc., et d'Israël, bien sûr. L'Europe, elle est extrêmement décevante, et la France en tout premier. Tous les pays européens, moi j'avais la chance, si je puis dire, d'être quand même à Rome au moment de l'adoption du statut, tous les pays européens ont été porteurs de la mise en œuvre de la création d'une juridiction internationale qui paraissait pendant longtemps une utopie, un rêve, et le rêve se réalisait. Et beaucoup d'autres pays ont souscrit à cela. Aujourd'hui, parce que c'est M. Netanyahou, on voit la France qui ose soutenir que s'il venait en France, il y a quand même une difficulté qui tiendrait au fait qu'Israël n'a pas ratifié le statut de la Cour pénale internationale et que par conséquent, le mandat d'arrêt serait pas vraiment applicable au nom de l'immunité qui prévaudrait en sa faveur. C'est totalement inexact en droit. Et en plus, c'est moralement et politiquement désastreux. Parce que quelque part, c'est un appui moins violent, certes, mais un appui pour discréditer la Cour pénale internationale. Or, il est clair que dans le statut, il n'y a aucune immunité qui puisse être opposée de la part de chefs d'État, de gouvernement ou autre, ce qui est une nouveauté et, il faut le dire, un acquis énorme, considérable et important. Et la France ne s'honore vraiment pas en tenant ce type de discours, alors que, et je termine par là, la Cour pénale internationale a eu à se pencher sur le fait que M. Poutine s'est déplacé en Mongolie. Et il se trouve que la Mongolie a ratifié le statut, mais que pour autant, la Mongolie a accueilli M. Poutine et ne l'a pas déféré à la CPI et transféré à la haie. Et la Cour pénale a rendu une des juridictions, une des compositions de cette juridiction, a dit mais c'est totalement illégal et contraire à notre statut.
Emmanuel Daoud.
Il n'y a pas de possibilité pour les États membres de la Cour pénale internationale de mégoter ou de négocier sur l'exécution des mandats d'arrêt. C'est-à-dire que je suis État membre au statut de Rome, j'ai adhéré à ce statut de Rome, j'ai une obligation juridique de coopérer avec la Cour pénale internationale. Ce qui veut donc dire que si jamais un individu, quel que soit son statut, se trouve sur mon territoire, Vladimir Poutine comme Benjamin Netanyahou, je dois l'interpeller et le remettre à la Cour pénale internationale, à la haie. Et c'est une obligation juridique. Et lorsque la France adopte cette position officielle par le Quai d'Orsay en disant on va pas l'interpeller, en fait, Monsieur Netanyahou, parce que ça doit se regarder. La France est une amie de l'État d'Israël. La France est une amie de l'État d'Israël et du peuple israélien. Et je suis un ami d'Israël et je suis un ami du peuple israélien. Mais là, ce qu'on dit, c'est que Monsieur Netanyahou est suspecté d'avoir commis les crimes les plus graves. Et la France envoie un message désastreux lorsqu'elle annonce qu'elle ne va pas exécuter ce mandat d'arrêt. Parce que si la France, parmi d'autres pays fondateurs du statut de Rome et fondateurs de la Cour pénale internationale, prend ce type de liberté, quel est le message que l'on envoie à toute la communauté internationale? C'est la promotion de l'impunité. Et comme la justice est souvent la parente pauvre du débat public, en tout cas dans notre pays, finalement, ça fait quelques lignes. Mais en réalité, on devrait tous et toutes collectivement avoir honte de cette prise de position, c'est-à-dire que la France ne respecte pas les fondamentaux de la justice pénale internationale et la France tourne le dos au bon fonctionnement de la Cour pénale internationale en fonction de quoi? De ses intérêts économiques. C'est pas très glorieux, en fait.
Boudi Manaman.
Oui, l'autre interrogation par rapport à ce qui vient d'être dit concerne pas simplement les intérêts économiques, mais également le risque pour certains pays, je pense aux États-Unis, je pense à l'Allemagne, mais je pense aussi à la France, d'être accusé de complicité de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité, dans la mesure où ces pays ont fourni massivement des armes à Israël pendant les bombardements sur la bande de Gaza, et contrairement à ce qui a pu être avancé ici ou là, des armes offensives et non pas des armes défensives, si tant est qu'il puisse y avoir un distinguo à opérer. Qu'en pensez-vous ?
La Cour pénale internationale ne peut pas poursuivre des États, elle ne poursuit que des individus. La Cour internationale de justice, elle peut constater des manquements, par exemple aux conventions de Genève, mais elle n'a pas le pouvoir d'engager des sanctions contre les États qui auraient manqué à ses obligations conventionnelles. Évidemment, une décision de la Cour internationale de justice aurait des conséquences et a des conséquences symboliques et politiques très importantes. Mais s'agissant de celles et de ceux qui auraient participé à la livraison d'armes offensives et qui les auraient validées, il est possible juridiquement de les poursuivre individuellement, quelle que soit leur fonction, qu'il s'agisse de dirigeants ou dirigeantes des entreprises concernées, ou qu'il s'agisse des politiques qui ont validé, des ministres qui ont validé ce type de livraison en connaissance de cause. Mais vous savez, enfin, je veux pas être, je ne lis pas dans le marc de café, mais les suites du conflit israélo-gazaoui et de ce qui s'est passé le 7 octobre, des crimes du 7 octobre et les crimes qui sont ceux de l'État d'Israël sous le gouvernement de M. Netanyahou, les suites judiciaires ne sont pas écrites encore. Ça va durer des années. On ne l'a pas dit, tellement c'était évident, ces crimes sont imprescriptibles. Ce qui veut dire qu'ils peuvent être poursuivis, il n'y a pas le temps que ça durera. Et donc, M. Netanyahou comme M. Vladimir Poutine sont dans la situation de n'importe quel criminel de droit commun poursuivi par, enfin, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Ils n'auront plus de répit. Alors, peut-être qu'ils pourront aller en Mongolie. Peut-être que M. Netanyahou peut aller aux États-Unis et être reçu en grande pompe.
Il y est en ce moment.
En grande pompe par M. Trump. Mais l'histoire n'est pas encore finie.
Patrick Baudouin, Emmanuel Daoud, dans un instant, nous allons parler de l'avenir. Peut-être un mot, Patrick Baudouin.
Oui, je voudrais dire un mot, puisque vous avez posé une question, pour dire que par rapport aux livraisons d'armes, il y a eu la Ligue des droits de l'homme et d'autres organisations, nous avions saisi la juridiction administrative pour justement qu'elle interdise la fourniture. Alors, c'était principalement des munitions, mais il faut savoir que la France continue effectivement d'alimenter en armement et en munitions l'État israélien pour les crimes qu'il poursuit. Malheureusement, on nous a opposé le fait qu'il s'agissait de ce qu'on appelle une très très vieille notion, qui est celle d'acte de gouvernement, et qui rend incompétent la justice pour aller censurer les autorités publiques. Deuxième élément, il est vrai que il sera possible de poursuivre, et y compris dans notre pays, à la limite, ou aux États-Unis, des personnes physiques. Et ça pourrait être le cas par les justices nationales, on ne sait jamais, on peut rêver. Emmanuel disait à juste titre que c'est imprescriptible, donc dans des années, on pourra continuer à poursuivre et à juger. Dernier point, vous avez évoqué, on n'en a pas parlé beaucoup, je voudrais juste en dire un mot, parce que je trouve que c'est important, c'est la CIJ, la Cour internationale de justice. C'est important pourquoi ? D'abord, c'est une juridiction, il est vrai, un peu méconnue, mais il n'empêche qu'elle a rendu des décisions essentielles en ce qui concerne Israël. Elle en avait rendu une première en 2004, qui était la question du mur qui était en cours de construction de la part de l'État israélien pour, entre guillemets, protéger les colons et instituer une séparation entre les Palestiniens et autres. Et la Cour internationale de justice avait très clairement dit que c'était illégal, qu'il fallait que ça cesse. Israël s'est assis sur la décision de la Cour internationale de justice. De même, en janvier, on l'a évoqué tout à l'heure, la Cour internationale de justice, fin janvier, a rendu une décision en disant qu'il y avait, je résume, tous les ingrédients d'un crime de génocide en cours d'exécution, ou en tout cas en cours de préparation, et ce sur la base d'une convention dont il faut toujours rappeler ce qu'elle est, c'est-à-dire la convention la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, et la prévention. Et la CIJ avait insisté pour dire « c'est en cours, il faut au moins arrêter ». Donc vous cessez les bombardements indiscriminés, les atteintes aux populations civiles, Israël s'est assis dessus. Et ceci pour terminer, pour dire que depuis le début, depuis la création quasiment de l'État d'Israël, cet État viole systématiquement, et ça a commencé en 47, 48, où les résolutions qui avaient été sur le partage, Israël n'a pas respecté le plan de partage. Ça a commencé comme ça. Et ça s'est poursuivi d'une façon insensée avec une complaisance de la part de ce qu'on appelle la communauté internationale, hormis des résolutions des Nations Unies dont tout le monde se moque. J'entends les puissants, Ce qui est grave, c'est pas seulement ce qui se passe en Israël et ce qui se passe pour les Palestiniens, ce qui nous préoccupe évidemment au premier chef aujourd'hui, parce que qu'est-ce qu'il en résulte ? Mais ça sert à quoi finalement ? Les juridictions internationales, ça sert à quoi les conventions internationales si elles sont violées en toute impunité sans que personne ne vienne finalement sanctionner ceux qui en sont les coupables. Et moi, ça me paraît très très grave, pas moi spécialement d'ailleurs, ça n'a pas d'intérêt, mon opinion personnelle, mais d'une façon large, ça me paraît très grave aujourd'hui, ça paraît très grave et c'est très grave de voir que c'est appuyé par la puissance qui reste quand même la puissance principale du monde, et on le voit très bien hélas, sous l'égide trumpienne.
Tout cela n'est pas très encourageant, on va quand même essayer d'aborder la question de l'avenir dans un instant.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Fréquence droit sur Aligre FM, une solution politique est-elle encore possible ? Et le droit peut-il aider à voir le jour cette solution politique ? C'est la question que je vous pose pour cette dernière partie de l'émission. Question à Patrick Baudouin, président honoraire de la Ligue des droits de l'homme, et à Emmanuel Daoud, expert en droit international. Emmanuel Daoud, est-ce que le droit peut aider à l'émergence d'une solution politique ?
Le droit devrait aider, mais le rappel qui a été fait par Patrick Baudouin à l'instant laisse à penser que ça va être compliqué. Je ne me sens pas autorisé à répondre parce que je ne suis pas suffisamment expert en la matière. La seule chose que je vois, c'est que les gens de bonne volonté, comme l'on dit, pensent que la seule solution possible pour que la paix règne enfin, c'est ce qu'a dit tout à l'heure Patrick, c'est qu'il y ait deux États dans lesquels ces deux peuples voisins puissent vivre en paix et en toute sécurité. Est-ce que nous allons y arriver ? Mais nous sommes à des années-lumière de tout cela, avec toutes ces graines, plus que des graines, c'est des semis de haine partagée de part et d'autre. Il y a eu des dizaines de milliers de personnes qui sont décédées, victimes civiles. Patrick Baudouin le rappelait tout à l'heure, les crimes du 7 octobre ont meurtri existentiellement le peuple d'Israël. Je ne sais pas comment on pourra reconstruire sur ce tas de ruines. Mais si la communauté internationale, je suis optimiste, mais si la communauté internationale prenait enfin les choses en main et imposait à chacune des parties, y compris à ceux qui veulent toujours la guerre et qui ne veulent pas la paix, cet accord, on y arrivera. Et vous savez, le droit, sa plasticité lui permettra de s'adapter et de donner les outils pour construire ces deux États. Mais je ne veux pas aller plus loin parce que je ne me sens pas légitime pour aller plus loin.
Boudjem Adaman.
Question. Des voix s'élèvent pour réclamer la reconnaissance d'un État palestinien par la France, et une conférence prochaine est annoncée au mois de juin avec l'Arabie Saoudite et la France, qui, dit-on, permettrait peut-être cette reconnaissance par la France de cet État palestinien. Qu'est-ce que ça change, la reconnaissance ou non d'un État palestinien, quand on sait que l'Espagne, l'Irlande, les Pays-Bas...
Et au total, 139 États, de l'Assemblée générale ont déjà reconnu l'État palestinien. Patrick Baudouin.
Alors, trois points peut-être. Le premier, je reviens un instant sur le droit. Le droit aujourd'hui est bafoué. Il existe toutes les conventions utiles. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. Le problème, c'est le fait qu'elles ne sont pas appliquées. Et c'est la difficulté de les rendre efficientes, efficaces. Il n'empêche, et là je voudrais rester sur un point d'optimisme, que ce n'est que par le droit que l'on sortira de la crise actuelle. Le respect du droit international qui a été posé, qui est aujourd'hui malmené et violenté, je crains que ça ne dure quelque temps, mais on peut espérer aussi qu'il y ait un sursaut, et en tout cas, nous devons, nous, militer pour ce sursaut. Et j'étais encore président lorsque la Ligue des droits de l'homme, à son congrès de Bordeaux, qui est le dernier congrès qui s'est tenu il y a une dizaine de mois, a adopté une résolution sur ce conflit Israël-Palestine, c'est le droit qui a été notre boussole et on doit continuer à penser que c'est la force du droit et non pas le droit de la force qui doit l'emporter. Le deuxième point, vous évoquez effectivement la faiblesse des représentants, enfin la faiblesse, la gravité qui résulte des représentations à la fois du côté des Palestiniens, des dirigeants, j'entends, des dirigeants palestiniens, des dirigeants israéliens. Tant qu'on aura, je dirais, les mêmes, on peut craindre qu'on n'aboutisse pas à un résultat satisfaisant, à une paix ou à une perspective de pacification entre les deux peuples. Du côté de l'autorité palestinienne, il est certain qu'il y a un affaiblissement considérable. L'actuel président de l'autorité palestinienne est largement discrédité, assez absent et semble-t-il ballotté entre des courants contradictoires sans réel pouvoir. Ça laisse la place assez large, ça a été le cas, on l'a très bien vu. D'ailleurs, ça avait été favorisé par Netanyahou lui-même, hein, il faut le rappeler. La place assez large aux extrémistes du Hamas. Donc, le côté palestinien, est-ce que quelqu'un peut émerger? On parle beaucoup de Barghouti, je pense qu'effectivement, ça serait une bonne solution. Mais pour l'instant, il est emprisonné et rien ne dit qu'Israël est disposé à le libérer. Donc ça, point d'interrogation. Du côté israélien, Emmanuel Daoud le rappelait tout à l'heure, on est quand même sur le jeu politique israélien, quand on ne parle pas des Palestiniens, on est dans une démocratie, on peut peut-être espérer, on l'a vu dans le passé, qu'il y ait tout de même des gouvernants plus ouvert à des perspectives de dialogue, de discussion et d'évolution dans un sens positif. Mais voilà, dernier point que vous évoquiez, l'État palestinien. Oui, je crois qu'il serait important symboliquement, politiquement et d'une façon positive de voir la France reconnaître l'État palestinien. Ça n'aura pas de conséquences immédiates si les données actuelles dans le territoire israélo-palestinien subsistent, c'est-à-dire les mêmes dirigeants, les mêmes. Mais ça sera un signe d'avenir précurseur et qui facilitera tout de même, je pense, cette évolution.
Dernière question en guise de conclusion et en prolongeant ce qui vient d'être dit, qu'est-ce que la France pourrait faire pour aider à une émergence d'une solution outre la reconnaissance de l'État palestinien? De quels moyens la France et l'Europe disposent pour peser sur le cours des événements?
Comme je suis avocat, je vais vous répondre de façon prosaïque et pragmatique. Si déjà l'on poursuivait en France, sur le fondement de la compétence universelle, les binationaux franco-israéliens qui ont commis des crimes à Gaza, ce serait un début. Si l'on poursuivait en France les entreprises qui, sous le couvert de sociétés écrans et par des circuits interlopes, ont assuré la livraison de matériel offensif en sachant très bien à quelle serait sa destination, c'est-à-dire le bombardement de populations civiles, ce serait un autre signal positif. Et comme l'a dit fort justement mon confrère et ami Patrick Baudouin, la France s'honorerait de reconnaître l'État palestinien parce que, en fait, on est enfermé dans une espèce de dilemme qui est de dire si l'on reconnaît un État palestinien, c'est qu'on est on soutient les terroristes. C'est une posture totalement caricaturale. Allons plus loin, reconnaissant l'État palestinien. Disons que l'on peut discuter avec les Palestiniens et les Palestiniennes de bonne volonté et essayons d'aider ce peuple qui souffre tant, qui a tant souffert, et envoyons aussi un signal positif à celles et ceux nombreux en Israël qui veulent la paix et qui veulent construire une paix durable entre ces deux peuples et, je l'espère, ces deux États demain.
La Ligue des droits de l'homme peut jouer son rôle dans la mobilisation de l'opinion, Patrick Baudouin?
Juste le mot de la fin. Mais peut-être pardon. Une précision pour avant que Patrick ne réponde. Là, on vient de parler de la France. Au niveau de l'Europe, est-ce qu'il ne serait pas important aussi qu'il y ait une mobilisation pour la rupture des accords commerciaux, économiques entre l'Europe et Israël, dans la mesure où on sait qu'un certain nombre de produits viennent quand même des territoires occupés?
Oui, alors c'est précisément là, les deux questions se rejoignent. La Ligue des droits de l'homme, oui, elle peut jouer un rôle. Bon, on ne prétend pas que la Ligue des droits de l'homme, à elle seule, va parvenir à imposer
les sociétés civiles,
imposer la paix.
Avec
mais les sociétés civiles, bien sûr, bien sûr. Bah, s'il n'y avait pas celle-là, ça serait pire encore. Donc, bien sûr que nous avons un rôle à jouer. Et en particulier, je rebondis sur ce que vous venez de dire, nous avons demandé et nous continuons de militer pour qu'il y ait aussi des sanctions. Emmanuel parlait des poursuites qu'on peut exercer contre les franco-israéliens qui vont eux-mêmes accomplir des actes criminels à Gaza, ou les sociétés qui concourent aussi à ces crimes. Mais oui, il faut, par exemple, utiliser le levier de l'accord entre l'Union européenne, l'accord économique, financier entre l'Union européenne et Israël, et dire on suspend cet accord. Ça, on l'a demandé. De même qu'on demande, bien sûr, la cessation de toute fourniture d'armes à Israël, toute une série de mesures qui peuvent être prises. Et ça, la Ligue des droits de l'homme à l'échelle française, et puis les organisations internationales, la FIDH, Amnesty, Human Rights Watch, beaucoup d'autres, et les organisations, j'insiste beaucoup là-dessus, les organisations palestiniennes et israéliennes sont dans le même registre, les organisations de défense des droits qui travaillent ensemble. Je pense à des organisations comme B'Tselem ou les organisations comme Al-Aqsa pour les Palestiniens qui poursuivent un objectif commun. Cet objectif commun, c'est quoi? C'est la justice, c'est le respect du droit et qu'on parvienne à une paix juste et durable. On revient toujours à la même expression. Donc ça, la Ligue des droits de l'homme, oui, reste, vous le savez, très très mobilisée. De même qu'elle reste mobilisée sur un sujet qui est celui de l'antisémitisme et de la même manière le sujet de l'islamophobie ou du racisme, bon, tout ça ou toutes les discriminations contre lesquelles nous luttons. Je pense qu'il faut arriver, si vous voulez, aujourd'hui, quand on commence à discuter, et nous le savons avec Emmanuel et nous le subissons hélas, de la question israélo-palestinienne, si on commence à aborder les violations massive des droits des Palestiniens et les crimes contre l'humanité, voire de génocide dont ils sont victimes à Gaza, on nous dit, mais et les Israéliens? Et est-ce que vous parlez du 7 octobre? Et est-ce que vous parlez des otages? Et si à l'inverse, on vient dire, on déplore ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est au moins un crime contre l'humanité, cette attaque insensée et barbare du Hamas, on nous dit, mais et les Palestiniens? Non, c'est ça qu'il faut surmonter, c'est qu'il faut qu'on trouve, Emmanuel le disait très bien, on est des juristes, on apprécie en fait ce qui se passe, et puis après, ben, on essaye de donner des solutions politiques et humaines à l'analyse qui peut être faite, et une analyse juridique aussi objective. Je sais bien que c'est difficile sur ce conflit. Il est tellement passionnel, il est tellement ancré dans des siècles d'histoire qu'on a du mal. Mais il ne faut pas désespérer, je crois qu'il faut continuer à prôner ce dialogue et ce respect, cette compréhension mutuelle des positions des uns et des autres, sans toujours être dans l'extrémisme des prises de position.
Il ne faut pas désespérer, j'ai retenu ce mot, ce sera le mot de la fin. Patrick Baudouin, merci. Vous êtes, je le rappelle, le président honoraire de la Ligue des droits de l'homme, avocat. Et puis Emmanuel Daoud était avec nous également, avocat, expert en droit international. Merci à Saïd Nabil, qui était à la technique. Merci à Laurence Sabiré-Séban, qui a supervisé cette émission. Pour Jemma Daman, merci. Tout de suite, le mot de la présidente de notre section, comme chaque mois, Yannick Alvarez. Bonjour Yannick.
Merci beaucoup à Ligue FM de votre accueil. Je suis très honorée de la tâche qui me revient maintenant d'assurer le mot du président qui devient de fait le mot de la présidente. Tout d'abord, je me réjouis vraiment qu'existent des espaces de libre expression comme celui de Ligue FM. C'est vraiment très précieux. La période actuelle est très troublée. Elle est même vertigineuse. On a le sentiment parfois que le sol se dérobe sous nos pas. Et la tâche de défendre les droits devient immense. Partout en Europe et dans le monde, des forces politiques qui jusque-là se voulaient démocratiques finalement s'allient avec l'extrême droite pour attaquer la démocratie et les droits. Et nous sommes tous les jours sous le choc face à une force qui apparaît sans limite et sans règles. Alors, ce qui me vient à l'esprit dans ce cas-là, c'est le petit slogan chanté qu'on entend souvent dans les manifestations, qui est assez générique, qui est très simple et très significatif. On est là. On est là. On est là comme gardienne et gardien des droits. Et j'espère pouvoir le démontrer au fur et à mesure de ces moments de libre parole sur Aligre FM.
Merci Yannick. Yannick Alvarez, président de la section de la LDH 10 et 11e arrondissement. Fréquence droit, c'est fini pour cette fois. À bientôt.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.